Amen. Alors, on va lire ce matin une portion des Écritures, naturellement, dans Jacques chapitre 2, l'épître de Jacques chapitre 2, et on va lire, prendre le temps de lire versets 14 à 26, jusqu'à la fin du chapitre. Verset 14 dans Jacques chapitre 2, 14 à 26. Et la parole de Dieu nous dit ceci ce matin, mes frères. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô en vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Merci Seigneur pour cette parole, elle est vraie, elle est entièrement vérité. Tu es la vérité, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, tu es notre bon berger. Ouvre notre entendement ce matin, ouvre notre compréhension Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Seigneur, je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » La réponse, c'est « ça ne sert à rien. Hein? » C'est ça qu'il veut dire, ça ne sert à rien. Et alors, peut-être qu'on peut décrire un petit peu ce matin ou expliquer un petit peu ce matin qu'est-ce que ça veut dire lorsque quelqu'un peut dire « Sois béni, mais dérange-moi pas ». C'est ça le titre du message et c'est ça vraiment le message que Jacques, le frère de Jésus, parle ici dans son épître. À quoi bon cela si on ne peut pas mettre nos paroles en action? Et peut-être que j'ai de la misère avec ça ce matin. The next one. OK, Snoopy. Snoopy peut peut-être paraphraser qu'est-ce qu'on vient de dire. Et Snoopy est à la porte de Charlie Brown et durant une tempête de neige, il a son bol entre ses dents. Frappe à la porte. Charlie Brown répond et dit, « Ah, Snoopy! » Il dit, « Va, Snoopy, sois béni et rassasié. » Puis il ferme la porte. Snoopy marmonne à lui-même, « À quoi bon ça? » Et il retourne à sa niche. À quoi bon ça? Et vous savez que Charles Schultz, celui qui faisait ses animations, c'était un monsieur qui connaissait le Seigneur. Et alors, il y avait toujours des messages dans qu'est-ce qu'il disait dans l'histoire de Snoopy. Et puis, naturellement, le message ici, on le comprend. Il essaie de décrire l'épître de Jacques ici. À quoi bon ça? Martin Luther avait de la misère au début de sa conversion avec l'épître de Jacques. Et j'ai partagé le premier chapitre de Jacques au mois de mars, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de le faire. Mais aujourd'hui, je veux juste répéter que Martin Luther, le grand réformateur, a eu de la misère vraiment avec l'épître de Jacques. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'épître de Jacques? Justement, il a dit « L'épître de Jacques est une épître de paille. J'aimerais l'acheter dans le poêle. » C'était ça au début de sa conversion. C'est de cette façon qu'il parlait, parce qu'il était sauvé, lui, et il a compris que c'était seulement. Nous sommes sauvés seulement par la foi. Dans Romains chapitre 3, nous dit « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Et alors, Martin Luther dit « Non, 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 c'est seulement par la foi. » Et puis, il avait absolument raison. Mais lorsqu'on comprend qu'est-ce que Jacques essaie de dire, la preuve d'avoir été sauvé, la preuve que Dieu nous a transformés, c'est les œuvres. Il y a plus tard admis, Martin Luther a admis plus tard son erreur et a considéré l'épître de Jacques, il a dit, très précieuse. Alors, il a vraiment compris le message de l'Évangile complètement. Et alors, Jacques dit ceci, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Et j'ai marqué dans ma Bible, peut-être vous devriez le marquer aussi, mais je sais que dans la tradition anglophone, la NIV ou le New King James Version dit « Can such a faith save him? » La foi peut-elle le sauver? « Can such faith save him? » Autrement dit, il dit « Est-ce que cette sorte de foi peut le sauver? » La réponse dit non. Cette sorte de foi, la foi juste par la bouche, juste par nos paroles, peut-elle, cette sorte de foi peut-elle le sauver? Puis il dit non, cette sorte de foi peut-elle le sauver? La réponse est non. Et alors, la première chose qu'on veut dire, c'est que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Et on va expliquer, d'ailleurs, l'épître de Jacques s'explique par soi-même, mais une foi verbale ne sauve pas, comme vous savez. Une foi, quelqu'un qui est un chrétien nominal, c'est-à-dire il se nomme chrétien, il se dit chrétien, et vous allez parler à beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens sur la rue, puis vous allez demander « Est-ce que vous êtes un chrétien? » Il va dire « Oui. » Mais c'est seulement verbalement, parce que la vraie foi régénère le cœur. La vraie foi, n'est-ce pas, transforme une vie. La vraie foi change une personne. La vraie foi se manifeste en acte d'amour, en œuvre qu'on veut servir, on veut, comme tantôt on chantait, on adorait le Seigneur, on veut l'adorer en esprit et en vérité, mais pas juste venir le dimanche l'adorer, on veut le servir, comme on a chanté. On veut le servir, et c'est la preuve de la vraie foi. Si ma foi ne me change pas à une meilleure version de moi-même, cette foi est au moins défectueuse et au pire, morte. Morte. C'est qu'est-ce que Jacques encore dit. Martin Luther, encore maintenant, il l'avait compris, Martin Luther plus tard a dit, « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. » Là, on comprend mieux, n'est-ce pas? On comprend que nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. Celui qui a la foi qui sauve n'est jamais seul. Et alors, les œuvres vont suivre. Les œuvres sont la preuve, le caractère de la personne, la personnalité de la personne, la façon qu'il va même penser, la façon qu'il va parler, la façon qu'il va agir va changer parce qu'il a été transformé. Il y a l'histoire d'un policier qui arrête une auto et demande le monsieur pour son permis de conduire et ses assurances. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, ça? L'automobiliste chrétien, il demande au policier, ai-je fait un excès de vitesse, constable? Non, le policier dit. Ai-je passé un feu rouge? Non, dit le policier. Mais je t'ai vu agiter ton poing à quelqu'un qui t'a dépassé à ta droite. Et je t'ai vu en colère et crier à quelqu'un qui t'a coupé. Et j'ai vu frapper ton volant lorsque la circulation s'est arrêtée près du pont et qu'il y a eu tellement de trafic. Le monsieur dit, « Est-ce que c'est un crime? » Le policier dit, « Non. » « Est-ce que j'ai brisé la loi? » « Non. » Mais le policier dit, « Mais lorsque j'ai vu l'autocollant qui disait « Jésus t'aime », j'ai pensé que la voiture avait été volée. » Ouais. Ouais. C'est pour ça que je ne mets pas d'autocollant sur mon char. Voyez-vous, la parole n'est pas un simple livre de conseils. Hein? Ce n'est pas juste des conseils qu'on lit. Certains soi-disant chrétiens disent « nous croyons », mais il n'y a rien qui les distingue des non-croyants. Il n'y a rien qui fait la différence. Croire les enseignements de Jésus-Christ ne nous sauve pas et n'attire pas les autres non plus, dit Jacques. Encore, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nos œuvres démontrent que nous sommes sauvés. La vérité, c'est si les autres ne voient pas l'amour de Dieu en vous, si les autres ne voient pas l'action de l'amour de Dieu en nous, nous n'avons pas une foi qui sauve. N'importe qu'est-ce qu'on peut dire. N'importe si on prêche bien. N'importe si on témoigne bien. Si vraiment on ne marche pas de la façon qu'on dit. La foi sans les œuvres est morte. C'est la première chose que Jacques nous dit. Puis, on comprend pourquoi Martin Luther disait, oh, c'est un épître de poète. Parce que c'est dur. Lorsqu'on lit, c'est dur, c'est difficile, mais on sait que c'est la vérité. La deuxième chose, c'est que la foi sans les œuvres est, je dirais même, c'est loin, mais démoniaque. Démoniaque, de dire la foi sans les œuvres est démoniaque, mais c'est qu'est-ce que Jacques dit? C'est qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Pourquoi? Ben les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Ils tremblent, ça veut dire, le message, là, c'est qu'ils ont les cheveux tout droits. Ils ont peur. Ils sont effrayés. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Alors, sans les œuvres, la foi est démoniaque. Jacques dit, si tu crois en un seul Dieu, félicitations. Tu crois en un seul Dieu, félicitations. Tu crois en Jésus-Christ, félicitations. Mais même les démons croient. Il dit, même les démons croient et ils tremblent. Ils tremblent de peur. Et alors, on voit que c'est la même chose. Si on peut dire que les démons sont des croyants très bien informés. Ils sont très bien informés. Il n'y a aucun hérétique en enfer. Il n'y a aucun hérétique parmi les démons. Aucun hérétique. Ils ont une très bonne théologie, mieux que la vôtre. Ils comprennent mieux que nous. Une très bonne théologie, mais ils n'aiment pas Dieu. Il n'y a pas un amour pour Dieu. Ils ne s'aiment pas les uns les autres. Ils croient, c'est bien sûr, ils croient, mais leur croyance ne touche pas. Pas leur cœur. C'est ça la différence. Ça ne touche pas le cœur, ni transforme leur caractère. Ils ont juste une théologie. Ils ont juste une connaissance que Christ est le Christ, que Christ est le Messie, qu'il est la vérité. Mais il n'y a aucune transformation. Alors la foi est beaucoup plus que croire. Beaucoup plus que croire et avoir une bonne croyance, une bonne théologie. C'est plus que savoir quoi faire, comment agir. C'est une relation. Une vraie foi, c'est une relation profondément intime avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui implique corps, âme et esprit. Ça implique tout, ça touche entièrement toute notre vie. Et alors, tout le reste n'est que des mots, des paroles, des paroles. Jacques réfère à deux personnes comme exemple qu'on vient de lire, Abraham et Rahab. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Bien sûr, bien sûr. Si tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et alors Abraham avait une foi en Dieu, il avait absolument une confiance en Dieu, mais la preuve était là lorsque Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foi solide en Dieu. Parce qu'il y avait un cœur pour Dieu. Parce que son cœur avait été mouvé, avait été ranimé, avait été touché par Dieu lui-même. Et alors, Abraham a été justifié par les œuvres, ce qu'il a fait, sa foi et son acte d'obéissance ont travaillé ensemble, qui a démontré l'intégrité de la foi d'Abraham en Dieu. C'était le dévoilement de sa vraie foi. Et alors Jacques, ensuite, parle de Rahab, la prostituée. Ça nous dit qu'elle recherchait Dieu. C'était une femme qui recherchait Dieu dans son cœur. Elle recherchait la vérité. Et lorsque les messagers de l'Éternel ont venu, elle a reconnu qui ils étaient. Elle a reconnu que c'était un peuple du Dieu vivant, de l'éternel Dieu. Elle a reçu, c'est comme elle a reçu et accepté la vérité de la part de ses messagers, et elle a reçu par la foi, mais par contre, elle l'a prouvé en cachant les espions et les fit partir en sécurité d'un autre chemin. Alors, c'était la preuve qu'elle avait été touchée dans son cœur. En passant, avez-vous remarqué que le contraste entre Abraham, l'homme de Dieu, et puis Rahab, la prostituée? Homme de Dieu, prostituée. Wow! N'importe qui nous sommes, n'importe qui nous sommes dans l'échelle de l'humanité, n'importe où nous sommes, le Seigneur ne refuse personne. Il ne refuse personne. Êtes-vous content ce matin qu'il ne refuse personne? Il est là pour chacun de vous, n'importe les circonstances, n'importe qu'est-ce qui est arrivé dans votre passé, n'importe qu'est-ce qui est arrivé hier. Il est là pour vous. Et alors, la foi véritable s'exprime par nos œuvres d'amour. Il n'y a rien de plus dangereux, je crois, qu'un consentement intellectuel. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un consentement de la tête qui ne touche pas le cœur, qui ne descend pas dans le cœur. Je crois qu'il n'y a rien de plus trompeux, de plus dangereux que cela. Et alors, on a besoin d'être touché dans notre esprit. Et que parfois, on chante, « Il m'a touché, il m'a touché. » Et oh, la joie qui remplit mon cœur. Mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était, Jésus. Et alors, l'importance que ça descende dans notre cœur. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et que Dieu soudainement nous parle, où il y a un verset, il y a une portion qui vient vivant dans notre esprit, eh bien, on la médite, mais il faut que ça descende dans le cœur. Et si ça descend dans le cœur, c'est ça qui fait le travail en nous. Et alors, la foi sans les œuvres ne sauve pas. Et la foi sans les œuvres est démoniaque. La troisième chose, c'est que la foi sans les œuvres endurcit le cœur. La foi sans les œuvres endurcit le cœur. Comme le corps sans âme est mort, dit Jacques, de même la foi sans les œuvres est morte. Mort, ça veut dire mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il y a rien de vivant là. Comme le corps sans âme est mort. Si le corps quitte, l'âme quitte le corps, il n'y a plus rien. On est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Et alors, Abraham et Rahab ont obéi lorsque Dieu les a demandés. Ils ont agi lorsque Dieu les a demandés. Chaque fois, je crois qu'on refuse d'obéir la voix du Seigneur lorsque le Seigneur nous parle. Et qu'on refuse d'obéir, ou qu'on veut obéir, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui arrive? On endurcit notre cœur, qui rend la tâche d'obéir plus tard pratiquement impossible. C'est pour ça que c'est tellement important de ne pas endurcir lorsque Dieu parle, de répondre à l'appel, de répondre et d'obéir le Seigneur, qui va rendre la prochaine tâche plus facile. Mais si on endurcit, ça va devenir dur comme le roc. Il a reçu un cœur dur. Et le Seigneur nous a promis de nous donner un cœur de chair, n'est-ce pas? Afin qu'on puisse recevoir et accepter et obéir à lui. Il y a un dicton que George MacDonald disait. George MacDonald était un pasteur et un auteur très profond. Et il dit ceci, « Les bonnes pensées doivent profiter de leur maturité. » On saisit un petit peu. « Les bonnes pensées doivent profiter de leur maturité. Il ne faut pas éprouver l'esprit par nos retards. » Alors, ça veut dire que ce que le Seigneur nous révèle lorsqu'il nous parle, nous devons le saisir. Nous devons le permettre de maturer, de grandir, de grossir, de fleurir, de s'épanouir en nous. On doit le permettre de faire cela. Et il ne faut pas éprouver l'esprit avec nos retards, parce que nos retards nous endurcissent. Et alors, on doit prendre l'opportunité. Aujourd'hui, lorsque Dieu parle, on doit répondre maintenant. Demain, c'est trop tard. C'est maintenant, lorsque Dieu vous parle. Et vous dites, oui, mais parfois c'est difficile. Moi, je dirais, parfois, c'est pas juste parfois, je pense que la plupart du temps, c'est difficile. Mais Dieu a toujours une solution. Alléluia. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours un moyen. Le Seigneur a toujours un chemin pour chacun de nous. Qu'est-ce que Romains 10 nous dit? Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Et alors, la foi authentique est le produit de la parole. La foi authentique est le produit de la parole. Quelques générations passées, si on recule, quelques générations, les chrétiens avaient un dicton lorsqu'ils lisaient leur Bible et ils référaient à aller faire une lecture spirituelle. Nous autres, on peut dire une étude biblique. Mais c'est plus qu'une étude biblique. Ils disaient non. Je veux avoir une lecture spirituelle qui voulait dire avoir un désir d'être profondément transformé par la parole que je vais lire. Être profondément transformé. Seigneur, il faut que tu me parles. Seigneur, il faut que tu me dises. Seigneur, il faut que tu me touches dans mon esprit. C'est une lecture avec un cœur prête à obéir. C'est une lecture, qu'est-ce qu'on appelle la lecture spirituelle? C'est une lecture avec un cœur prête à se repentir, avoir l'attitude d'une repentance dans nos esprits. Et alors, la vérité doit aller de notre tête et entrer dans notre cœur. Quelqu'un a déjà dit, il ne faut pas devenir un savant de la parole, mais un amant de la parole. Amen. De celui, un amant de celui qui est la parole. Et on le découvre qui il est dans sa parole. Et alors, l'étude biblique qui ne touche pas le cœur est un outil de l'ennemi de nos âmes. Oui, la lecture qui ne touche pas le cœur. Ce n'est pas juste un livre qu'on lit ici. Ce n'est pas juste des conseils qu'on lit ici. Ce n'est pas juste un roman qu'on lit ici. C'est la parole inspirée du Saint-Esprit pour nous, que Dieu nous a donnée. Et alors, si on lit juste pour lire, c'est dangereux. C'est un outil de l'ennemi. Parce que l'ennemi, n'oubliez pas, connaît la parole aussi. Ouais. Mais on a besoin que ça descende et que ça touche notre cœur. N'oublions pas que les démons sont pleins de vérité et pleins d'impiété. plein de vérité et plein d'impiété. Et alors, pas besoin de lire, si vous dites, oh, faudrait lire pour 15 minutes ou je vais lire pour une demi-heure. Non, pas besoin de dire ça. Pas besoin de lire rapidement parce qu'on est pressé. Ça ne sert à rien. Tout simplement d'attendre qu'on a plus de temps. Pas besoin de lire juste pour lire. Non, non. Nous lisons jusqu'à ce que nos cœurs soient touchés. Nos cœurs soient transformés. Nos cœurs soient chargés, soient brassés, soient ranimés dans nous. On lit de cette façon-là. Je pense que je vais, je vais perdre ma voix. Alors, on lit jusqu'à temps que la parole descende dans nos cœurs. Et c'est là que le travail se fait. C'est pas là. C'est là. On peut être très, très fin, très, très intelligent. Mais ça ne sert à rien si ça ne descend pas dans le cœur. Nous saurons à ce moment-là quoi faire ou quoi pas faire. Lorsque Dieu nous a touché notre cœur. Le psaume 25, versets 8 et 9, dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit, le bon berger, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Alors, voyez-vous, on a tout pour être un succès spirituel. Seigneur, aide-nous à faire une étude spirituelle lorsqu'on lit ta parole. Et méditons sur elle, parce que Dieu parle, il parle par son esprit. D'ailleurs, il a parlé ce matin, et je crois qu'il a parlé à plusieurs d'entre vous ce matin. Dieu parlait, Dieu parle encore, Dieu, il veut tellement nous parler, dévoiler sa gloire. Et nous bénir et nous aider, chacun de nous. Aujourd'hui, ce matin, est-ce que le Seigneur nous demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, d'agir, de faire une œuvre pour quelqu'un, une situation, ou d'arrêter de faire quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on fasse, quelque chose qui ne glorifie pas son nom? Est-ce qu'on peut méditer ce matin à cela et lui demander de nous parler d'une façon pratique, mais d'une façon personnelle ce matin? Je vais demander à l'équipe de venir, s'il vous plaît, pour la conclusion. Et je peux peut-être demander la question ce matin, quelle est la première chose qui nous vient à l'esprit? Est-ce qu'on peut fermer les yeux et demander qu'est-ce qui est la première chose qui vient à votre esprit à ce moment-là, ici, lorsque l'Esprit de Dieu agit, parle concernant votre vie personnelle. Quelle est la chose que l'Esprit de Dieu vous dit ce matin? Quelle est la chose que le Seigneur nous demande à faire ou d'abandonner? Est-ce qu'on peut penser à ça? Est-ce qu'on peut juste méditer? Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos oreilles spirituelles ce matin? Puis lui demander de nous parler.